Je pense que ça a été assez clair la manière dont on arrive finalement à voir ce qui est possible ou pas possible en regardant de plus près la réalité et pas en se laissant emporter par un certain nombre de clichés. Alors pour continuer dans le livre, il y a un chapitre qui est consacré à tout ce qui a été écrit sur la co-construction. Donc il y a eu des choses qui ont été écrites dans différents pays. Je pense que c'est quand même une évolution qu'on voit arriver dans des contextes très différents, hein, et que cette co-construction, c'est très différent de la coproduction. La coproduction, c'est quand on engage simplement autour d'une prestation, tandis que la co-construction, c'est vraiment, ça a été rappelé tout à l'heure, ça a été rappelé plusieurs fois de façon complémentaire, c'est quand il y a une possibilité en amont de voir, par rapport à la société que l'on veut construire demain, quelles sont les grandes zones d'accord, et à partir de ça se décline une contractualisation qui peut faire l'objet d'une évaluation. Donc on voit que il y a aujourd'hui dans différentes parties du monde des avancées dans ce sens de la co-construction. Et c'est vrai que après, on peut toujours se poser des questions, hein, qu'il y a un certain nombre de limites, c'est vrai, qui peuvent se faire jour. Je pense à la question d'excédent de gestion raisonnable qui vient de la législation européenne. On sait aussi que, historiquement, l'un des leviers du monde associatif, ça a été la mutualisation entre des activités qui étaient en fort bénéfice et puis d'autres activités qui étaient en forte perte, parce que ça permet aussi de faire vivre des activités différentes. Bon, on voit là qu'il y a des limites quand même qui ne sont pas encore aujourd'hui complètement dépassées, mais il me semble que on gagne tous pour construire cette confiance, effectivement, à écouter les points de vue. Et je crois que ce qui se dégage, c'est qu'il n'y a pas d'un côté les responsables associatifs et de l'autre côté les responsables publics, mais c'est bien qu'il y a autour de l'intérêt général, puisque ça a été là aussi souligné avec force, il y a la possibilité d'ancrer des choses concrètes qui sont de l'ordre de cette co-construction. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on voit bien que l'intérêt général, justement, il n'est jamais avec des frontières, hein, c'est-à-dire qu'il évolue dans le temps. Finalement, qu'est-ce que font les associations? Elles essayent de mettre en œuvre des actions collectives pour le bien commun. Et ensuite, savoir si ce bien commun passe au statut d'intérêt général, là, c'est effectivement une co-construction avec les responsables publics. Et je pense que on est en train, à travers cette notion de co-construction, peut-être de retrouver une dynamique démocratique, alors qu'on sait bien que notre démocratie, aujourd'hui, elle est essoufflée. Parfois, les gens n'y croient plus. Et je pense que dans les territoires, c'est vraiment important que cette co-construction avance aussi pour que puisse devenir à nouveau possible une projection sur un avenir qui ne soit pas bouché.
Merci, Jean-Louis Laville. Je pense, enfin, on essaiera de venir aussi sur l'impact de la réforme territoriale sur ces modes de contractualisation, voir comment ça impacte effectivement cette